19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver pour clore cette semaine vendredi. Vendredi, vous savez, c'est les informés des quartiers et comme évidemment chaque vendredi, nous tentons de vous mettre à l'honneur surtout une thématique. Alors ce soir, au sommaire de cette émission, dans les informés des quartiers du beau monde, autour de ce plateau, pour parler et échanger autour de trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Alors on parlera de, vous savez, de ce rapport jeune des quartiers populaires avec évidemment la police. Où en est-on précisément ? Pas un mot de M. Gabriel Attal, le tout nouveau Premier ministre, pas un mot sur la politique de la ville. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça se traduit par quoi ? Est-ce qu'on peut se poser la question et de se dire finalement, est-ce que la politique de la ville va disparaître des quartiers populaires ? Nous reviendrons sur ce sujet. La fracture de notre société, oui, ce fossé, il est en train de se creuser davantage entre les quartiers populaires d'un côté et puis la société française de l'autre. Comment faire en sorte que ces deux mondes s'écoutent, ces deux mondes se parlent, ces deux mondes communiquent. Nous parlerons aussi, vous savez, de l'appauvrissement des quartiers populaires. C'est une période compliquée, difficile pour toute la France, dans l'Hexagone, mais c'est très compliqué dans les quartiers populaires, de la même manière dans les zones rurales. Nous reviendrons sur ce sujet qui préoccupe beaucoup, beaucoup, je vous le dis, la population des quartiers populaires. Voilà, avec ceux du beau monde, hein, les invités, sans écarter évidemment, vous, au 01 53 48 3000, vous pouvez nous appeler, évidemment, faire part de votre sentiment concernant ces sujets. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression. Ah oui, c'est parti, je vais présenter donc les invités qui vont parler de ces thématiques. Le général, qui a un surnom d'ailleurs, c'est le général des banlieues. Le général Emmanuel de Richouft. Bonjour mon général.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Bon, ravi de vous retrouver, ça fait un moment.
Oui, ça fait un moment, mais vous m'avez pas invité, hein, qu'est-ce que je dis pas ?
Non, c'est pas ça, c'est pour il commence à tacler le général, il a le sens de la répartie, hein.
Il est bon.
C'est vrai.
Le journaliste, évidemment, qui c'est le retour du grand journaliste, Jérôme Bonnet.
C'est beaucoup dire, mais merci beaucoup en tout cas pour cette introduction, et ravi d'être de retour parmi vous, en effet.
Justement une personnalité qui est que je qualifierais moi de jeune révolutionnaire, mais il connaît bien les quartiers populaires et il vient des quartiers populaires, il s'appelle Richie Thibault.
Merci mon cher Adil, c'est toujours un plaisir d'être là et puis on salue bien chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Beurre FM.
Et il est jeune et aussi on a besoin de regards de jeunes. À vos côtés, un militant, alors là qu'il a jamais l'affaire pour le coup, ça c'est vrai. C'est Youssef Brakni. Bonsoir Youssef Brakni, militant des quartiers populaires. Comment ça va ?
Ça va, super.
Tout va bien ?
Très bien.
Et on a une élue qui s'est retrouvée coincée dans les transports. Eh bien, on l'attend. C'est Jessica Elonguer, qui est une élue dans les quartiers populaires, justement. Elle sera avec nous pour échanger avec vous.
Alors, ça, c'est une réalité sur les quartiers populaires.
Hein. Ça, c'est une réalité sur les quartiers populaires, absolument. Vous savez, pour ouvrir cette émission, j'aimerais revenir sur un événement tragique. Un événement, moi, qui m'a interpellé. Vous savez, c'est celui qui m'a été proposé par... Après avoir échangé avec le général de Richouft, il m'a parlé de ce jeune homme, un ancien boxeur, un ancien grand boxeur. On ne dira pas son nom aujourd'hui, évidemment, donc pour des raisons personnelles. Tout d'abord, mon général, parlez-nous de ce jeune homme, qui est un ancien boxeur, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement... J'espère qu'il va s'en sortir, mais visiblement, je crois que... Non, me semble-t-il, d'après les dernières informations.
Alors c'est pas vraiment un jeune homme, c'est un homme relativement mûr puisque je crois qu'il a 42, 43 ans.
Pour
moi aussi. On se s'est connus il y a à peu près 10 ans et on avait à peu près les mêmes idées. Nous avions les mêmes idées, nous échangeions sur les mêmes thématiques qui nous rassemblent ce soir et nous échangeions sur comment faire pour que on puisse amener des jeunes comme des moins jeunes dans la France. Sortir des quartiers et leur donner de l'envie, leur donner de confiance, etc. Et
donc, il vient de quel quartier ?
Il vient de Sevran, ou des environs de Sevran, voilà, j'en dis pas
93,
plus.
Ouais.
J'en dis pas plus.
93,
nous avons échangé sur comment faire. Donc on a échangé, on a donné nos... Et il est venu avec moi, je l'ai accompagné, il prenait des conseils, enfin ça prenait... Et c'était quelqu'un de remarquable, hein, en tout point remarquable. Il est venu dans le Midi parce que j'habite le Midi. Il est venu dans le Midi.
On parle au passé, il est pas mort.
Non, 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 non.
Il est dans un profond coma.
Et donc, j'ai appris donc, depuis quelques mois, dont on a travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'on a écrit un livre là. On a écrit un livre à deux, à quatre mains, justement pour son témoignage des quartiers et moi le témoignage de la France. Vous voyez, de ma témoignage de mon vécu, en disant comment peut-on faire ensemble pour rapprocher des populations, pour faire en sorte d'éviter cette terre et ces deux populations. Et il me disait depuis le mois d'août, il m'a dit Emmanuel, je me sens menacé. Il écrivait des mails à la mairie.
Il se sentait menacé.
On s'est revu. Je suis venu. On s'est revu ensemble. On s'est revu donc le 14 décembre. Je suis allé le 14 décembre après-midi le voir. On a bu un pot et on s'est voilà. Il a dit voilà. Bon, ça commence à aller mieux. J'ai fait le mail qui allait bien vers les autorités civiles, c'est-à-dire vers la mairie qui l'emploie. C'est pas Sevran, je vous rassure, pour pas que ça voilà. Et il me dit non, normalement ça va. Et le lendemain matin, le 15 décembre, il m'envoie un petit SMS.
Il m'envoie un petit SMS pour me dire
je te remercie de tes conseils. Je fais en sorte de voilà, parce que j'essaie d'apporter des conseils d'anciens en quelque sorte à un jeune. Et puis j'apprends le 24 décembre qu'il avait été poignardé le 15 décembre après-midi.
Par qui?
Par quelqu'un qui était issu. Par quel biais? Donc comme il était très entraînant, très dynamique, très l'adhésion se faisait tout autour de lui, aussi bien pour les jeunes que pour les familles de ces jeunes. Les bandes rivales en quelque sorte ont pris ombrage, puisqu'il j'ai compris qu'il tirait vers lui tous ces jeunes-là qui n'étaient plus des choufs, des observateurs et des futurs délinquants, puisqu'il les remettait dans le droit chemin. Et je pense que là il y a eu quelqu'un qui a pété les plombs, qui a dit je vais aller le faire régler son compte. Donc il est allé dans la salle de sport où il officiait avec un cutter, il l'a poignardé, donc il est tout de suite tombé, il a perdu son sang, il l'a achevé à coup de tatane dans la tête. Oh. Et tant et si bien qu'on l'a mis à l'hôpital, il est allé à l'hôpital tout de suite, quasiment tout de suite, une heure après, et il est toujours dans le coma artificiel, donc avec bien sûr l'incertitude qui est la sienne, qui est la nôtre. Hein,
parce alors parlons-en justement. Souhaitons-le qu'il s'en sorte.
Ouais, parce qu'on est en veille de là-dessus. Bon, on soutient sa femme, on soutient ses enfants qui sont petits, on essaie de faire au mieux. Bon, avec la mairie, etc., etc. Mais la question, vous savez, la question moi qui me taraude quand même, c'est de dire, mais si des gens comme ça, mais comme vous en face, qui fêtent dans les banlieues pour amener avec le même idéal que nous avons tous ici, c'est finalement un pays, une France, que c'est vous qui faites comme a fait Kevin pendant des années, et si vous êtes menacé comme il l'a été, et puis menacé mais vraiment dans sa chair, si on ne réussit pas à faire ça, on perd tout, quoi. Je veux dire, à un moment donné, bravo pour ce que vous faites, mais il y a le danger est là, j'en veux pour preuve que ce qui est arrivé...
Alors voilà. Posons la question, est-ce que le danger est là, Youssef Brakni? Je vais faire un tour de table. Est-ce que le danger, je pose la question différemment, nous guette en permanence dans les quartiers populaires?
Alors en fait, oui, c'est une histoire terrible, mais en même temps, être militant dans ce qu'on appelle les quartiers populaires, pour le dire rapidement, sur toutes les problématiques qui touchent les quartiers populaires, c'est de toute façon on le paye très cher en fait. C'est l'engagement coûte cher. C'est quand même rarissime qu'on en vienne jusque là. C'est quand même pas tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a plein de militants qui ne risquent pas forcément leur vie.
Derrick, il y en a tous les jours. Enfin, il y en a toutes les semaines.
Justement, on va y venir après, justement, dans le sujet, parce que nous-mêmes, on a mené tout un travail à Bagnolet autour de Rix, justement, entre Bagnolet et Montreuil. Et on a réussi. Et j'en parlerai tout à l'heure avec une méthodologie à mettre un terme à ces bagarres. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que militer dans les quartiers populaires, c'est un sacrifice. En fait, je veux dire, il y a personne qui vous aide. Il y a personne. Enfin, quand on milite dans un quartier populaire, il y a personne qui veut de vous. Notamment les mairies, notamment les pouvoirs locaux, le département, la région, n'importe qui. Personne ne veut, en réalité, qu'il y ait des militants dans les quartiers populaires. Moi, je le dis de manière un peu provocante. Je dis souvent cette phrase, c'est que on préfère de loin les dealers aux militants. Clairement.
Ce que vous dites, c'est terrible.
Oui.
On préfère de loin. Vous entendez ça, en général?
Mais je suis pas.
C'est terrible d'entendre ça. On préfère de loin les dealers. Que les
militants, oui, bien
militants.
Sûr.
Militants.
Quand on regarde comment on est pourchassé, moi,
alors
attendez.
Parlons-en. Non,
moi,
attendez, je vous le dis, attendez,
c'est
grave,
des poursuites judiciaires en permanence par les pouvoirs locaux. C'est votre famille qui ne peut pas travailler à la mairie. C'est un logement social que quelqu'un de votre famille doit attendre qu'il ne l'aura pas parce que ton frère fait de la politique, etc., etc. Donc c'est ça l'engagement. Bien sûr que ça a un coût. La plupart des militants, il faudrait les inviter. Les militants des années 90, les militants des années 80, ils ont fini dans une pauvreté extrême. Dans une misère extrême.
À part
et surtout quand on ne veut pas se vendre justement, surtout quand on ne veut pas se vendre, entre guillemets, quand on ne veut pas vendre la cause, vous voyez, quand on ne veut pas pour un petit poste de maire adjoint minable au sport, quand on ne veut pas vendre ses convictions, ben en fait, on paye cher, oui, très cher. Et ça a un impact sur sa vie. Et
je vais faire un tour de table, mais juste une réaction quand même en général. Non, on préfère évidemment les
dealers. Comme j'ai roulé ma bosse, j'ai pas mal roulé ma bosse depuis une quinzaine d'années dans différents quartiers, avec différentes personnalités. J'ai croisé des hommes politiques, des femmes politiques, de tout grade, de toutes obédiences. Je peux dire que ce que vous dites là, je suis pas étonné du tout. Ouais. Je suis pas étonné du tout, malheureusement.
Jérôme Bonnet, et ensuite après, justement, je voudrais entendre Richie Thibault sur ce sujet, parce que c'est vrai que Youssef Ragnil, il a mis les pieds dans le plat quand même, hein, en disant qu'on préfère désormais maintenant. Ça sous-entend quoi? Il y a quand même quelque chose de sous-jacent dans ce qu'il dit, Youssef Ragnil. Il faut aller le chercher. C'est qu'en réalité, est-ce qu'on peut parler d'échec de la politique de la ville? C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Mais alors complètement, en fait,
c'est
l'État
ça qui m'interpelle,
s'est progressivement désengagé de tout ce qui était politique sociale. Parce que ça coûte cher. Mais du coup, les gens qui les supplaient, qui pallient ces manques-là, ce sont des gens comme Youssef Braknik, Corentin, non qualifiés de héros tout à l'heure. Et si en plus, l'État, qui déjà a laissé un certain nombre de quartiers en déshérence, abandonne ces gens-là qui contribuent malgré tout à les faire tenir debout, à les faire vivre, eh ben c'est dramatique, parce qu'effectivement à ce moment-là, il n'y a plus que la pègre en fait, comme tuteur, pour que tout le monde s'adosse dessus, et voilà, et ça fait des zones de non-droit, et c'est particulièrement choquant, je trouve, parce qu'effectivement il y a à la fois des pressions qui sont d'ordre politique, visiblement, auxquelles il fait allusion, et puis en plus il y a on a besoin de ces gens-là pour tenir les quartiers.
Alors justement, Richie Thibault et Jessica Elonguer. Bonsoir Jessica Elonguer. Bonsoir. Qui est l'élu de Creil. Ça va?
Oui, ça va.
Très bien. Le micro peut-être n'est pas allumé, mais on va l'allumer, vous inquiétez pas. Okay. Alors justement, Richie Thibault.
Oui, alors...
Attendez, je vais vous poser la question, parce que Youssef Ragnil a soulevé pour le coup, là, il a pointé du doigt quelque chose de terrible. La question est très simple. Est-ce que finalement, la République n'a pas abandonné nos quartiers populaires?
Mais pire que ça, moi je pense qu'il n'est pas question d'un abandon, il est question d'une guerre au quartier populaire. Quand on voit le logique sémantique qui est utilisé, le lexique du moins, avec l'histoire du réarmement, etc., du rétablissement de l'ordre, de l'autorité, alors à la place de répondre à des problématiques de fond, c'est-à-dire que face à une politique qui serait logique, qui est celle de la résorption des problèmes à la racine, en s'appuyant notamment sur les réseaux militants, sur les gens qui connaissent le mieux les quartiers populaires parce qu'ils y vivent, eh bien le pouvoir politique en place et actuel ne jure que par la répression, par des moyens toujours de plus en plus denses, par des outils de plus en plus sophistiqués, et par aussi effectivement
un harcèlement. Est-ce que ça veut dire tout simplement que la République est désemparée? Est-ce que c'est
ça? Non, elle n'est pas désemparée. Simplement, elle sert les intérêts des puissants et des dominants, et elle abandonne d'une part les quartiers populaires, et dans les quartiers populaires, celles et ceux qui lèvent la voix pour dire qu'il y a un abandon, pour dire qu'il y a des politiques aux effets délétères, qui notamment nourrissent tous les problématiques de fond, eh bien ceux qui s'élèvent pour dénoncer ça, ils se voient soit mis en garde à vue, soit éborgnés, soit malmenés, soit amendés, soit enfermés et subissent un harcèlement policier, juridique et judiciaire.
Vous avez subi des harcèlements, vous? Parce que c'est vrai que je vous ai vu régulièrement, vous, par exemple, dans les... Non, mais c'est vrai, soutenir tous les mouvements, Adama Traoré, et puis tous les autres, d'ailleurs. On vous a vu régulièrement, dans ces manifestations. Vous avez été harcelé?
Mais ça, c'est... Oui, bien évidemment, on est harcelé. Moi, je compte plus les nombres de fois où on m'a attaqué en justice, et à chaque fois, bien sûr, c'est l'arme de la diffamation. Moi, j'avais, par exemple, souvent l'habitude d'intervenir au sein du conseil municipal de ma ville et de prendre la parole puisque c'était autorisé. Et après mes interventions, on a enlevé de Bagnolet. On a enlevé cette possibilité-là, en tout cas pour moi, évidemment, parce que j'en faisais une tribune en fait, et je faisais de la politique avec, et je diffusais après sur les réseaux sociaux, où en fait, dès que je critiquais, et ben en fait, on voulait me remettre à ma place en fait. Et donc je me retrouvais devant un tribunal, et c'est pas ma place d'être dans un tribunal. Et je me retrouvais à devoir défendre ma liberté d'expression, de pouvoir critiquer le pouvoir en place, à l'échelle locale, mais même à l'échelle nationale, évidemment. Mais je veux dire, moi, je suis un des membres fondateurs du comité Vérité et Justice pour Adama. Assa Traoré, par exemple, elle a été mise en examen 3 fois. Mmh. Alors que c'est elle la victime, enfin, c'est elle la famille de victime, et celle qui se retrouve sur le banc des accusés face aux gendarmes qui sont responsables, tout du moins, de la mort de son petit frère.
Juste,
Adil, non, parce que je dois lancer la
juste
pause.
Juste en un mot, peut-être, moi je dis que le pouvoir actuel ne joue que par la matraque. Par exemple, durant l'année 2023, pour ma part, en étant engagé politiquement, j'ai fait 6 gardes à vue, 140 heures privées de ma liberté, avec des classements sans suite. Ça, c'est un exemple concret que ces gens-là ne font pas de la politique, ils sèment la terreur.
On en parle avec justement Jessica Longuerre aussi, puisqu'on, je voudrais qu'on l'entende, elle est élue sur la ville de Creil, et avec le général de Richouf, avec Jérôme Bonnet, avec Youssef Rakhni, et enfin Richie Thibault. À tout de suite, nous bougez.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
On parle de la thématique aujourd'hui, vous savez, de rapport jeune-police, mais on parle aussi de cette république, la politique de la ville, et la république, finalement, n'a-t-elle pas déserté les quartiers populaires? Nous en parlons avec le général Emmanuel de Richouft, avec Jérôme Bonnet, avec Jessica Longuerre, Richie Thibault, et enfin, Youssef Rakhni. Vous savez, j'ai bugué, ça arrive, j'ai bugué. Jessica Longuerre, je vous ai pas entendu, sur tout ce qui s'est dit, notamment la république, les quartiers populaires, vous êtes élu à Creil, justement. Alors, parlons-en.
Bah, sur la question de la politique de la ville, elle sert à deux choses. Elle sert premièrement à participer au développement territorial et elle sert à éviter les écarts, les inégalités. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus d'inégalités ou est-ce qu'il y en a moins ? Ah bah, c'est toute la question, de toute façon, puisqu'on voit que le pouvoir d'achat est de plus en plus intense et que il y a des fractures qui sont considérables, et donc du coup on peut se dire, on peut remettre en question en tout cas les politiques, les mesures qui ont été mises en place dans le cadre des politiques de la ville, QPV et j'en passe.
Ça ne vous a pas échappé que le Premier ministre Gabriel Attal n'a pas dit un mot sur la politique de la ville par exemple lors de son discours, le grand discours donc qui était attendu à l'Assemblée nationale.
Mais aujourd'hui les gens ne veulent plus de discours, il faut actuellement des mesures qui sont lisibles, visibles et qui permettent aussi d'avoir des chiffres, parce que c'est bien facile de venir dire, de faire les grands discours pour dire que nous voulons mettre fin à l'inégalité, mais concrètement qu'est-ce qui s'en dit dans la vie quotidienne des individus. Après je veux quand même qu'on fasse la différence entre les répressions policières et les quartiers populaires. Je veux dire que souvent on a dans l'imaginaire comme si il y avait deux France. Alors c'est Kerry James qui disait il y a deux France. Et il disait c'est je suis de la France aujourd'hui. De l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. Donc entre guillemets, les quartiers populaires, ce sont des chômeurs, ce sont des délinquants et etc. Et donc du coup dans sa chanson, il dit aussi que non. Ce n'est pas possible de penser ça. On a eu de grands artistes qui sont sortis des quartiers populaires. On a des Omar Sy, on a des Claudia Tagbo, on a tout.
Donc ça représente combien de personnes. J'aime bien. Bon, ça représente combien de pourcentage. C'est ça.
Alors,
la vraie question
qu'on doit se poser. Je n'ai pas les chiffres.
Bien sûr, ce que vous en sous-entendez, c'est qu'il y a un véritable vivier et des pépites dans les quartiers populaires. On le sait tous. Jamel Debbouze en passant par Omar Sy, en passant par Kylian Mbappé, évidemment. Mais ces inégalités dont vous faites référence, parlons-en justement, parce que c'est un des sujets aujourd'hui. Jérôme Bonnet. Les inégalités sont croissantes dans les quartiers populaires, indices sensibles, mais elles sont surtout persistantes. Jérôme Bonnet.
Oui, moi j'ai le sentiment que, en fait,
parce que ça représente même pas 1%, ça. Hein.
Qui se présente comme le défenseur des classes moyennes, on le comprend, c'est 60% de la population. Donc évidemment, électoralement, c'est très payant. A fait le choix délibéré de présenter les gens du quartier comme les boucs émissaires. C'est-à-dire, effectivement, c'est bien pour ça qu'il n'en parle pas. Parce qu'à mon avis, dans l'imaginaire collectif, tous les clichés qu'a évoqué madame, ils sont malheureusement présents chez beaucoup. Et lui, les entretient de façon à avoir un ennemi. L'ennemi intérieur, ce sont les quartiers. Et c'est bien pour ça.
Cet ennemi a été remis en question lorsque il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et que aussi, les personnes qui étaient des ruralités subissaient les répressions policières. Donc, il n'y a pas une cible à proprement parler quartier populaire. Il y a un contexte qui sont les ennemis et les répressions envers ceux qui dérangent.
Moi, je suis un peu moins catégorique que vous. Je suis un peu désolé parce que ce que j'ai entendu depuis maintenant une quinzaine d'années, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, les contacts que j'ai pu avoir ici ou là avec les politiques, les gens des quartiers, etc. Il m'apparaît, moi, que d'abord, il n'y a pas de la politique de la ville. Pour moi, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de durée. Chaque ministère arrive et fait son truc sur un an, deux ans maximum. Donc, ça s'inscrit dans la durée. Dans la durée, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut. Et donc, on affiche l'affaire. Ensuite, les personnels politiques qui sont aux affaires n'ont pas, j'allais dire, la compétence, je pense, suffisante pour véritablement s'attacher à la mission. Et si on n'a pas les compétences, il y a deux choses. soit on s'éloigne, on le fait pas, donc on le fait pas et on rejette la faute sur les autres en disant ça marche pas, on donne de l'argent pour faire bien, on donne de l'argent, c'est un contrat social qu'on fait, mais on le fait pas finalement. Et donc ça rejoint un petit peu le sentiment que vous avez en disant l'État se désengage. Moi je pense qu'il se désengage parce qu'il ne sait pas faire. Alors là quand on ne sait pas faire, eh bien à ce moment-là, quand on est intelligent, on fait appel à ceux qui savent, et ceux qui savent, on les rassemble. C'est ce que j'essaie de faire modestement. J'étais encore tout à l'heure à Lille pour essayer de regrouper des gens, comme je l'ai fait à Nîmes, essayer de faire en sorte que les gens se travaillent ensemble. Et brusquement, quand vous travaillez ensemble, vous avez une vision, vous avez un.
Quand vous dites travailler décision. Ensemble, c'est se vivre ensemble?
Non, c'est déjà travailler pour amener. Oui, ça peut être vivre mais ensemble. C'est travailler dans un quartier, dans une ville, ensemble, à rameuter les entreprises, les associations, les gens qui savent faire, les écoles, etc., pour essayer d'avoir un cursus.
Voilà. Parce que je sais que tout le monde a envie de parler. Richie Thibault, Youssef Brakni et Jessica Elonger.
Oui, moi je pense que il ne s'attaque certes pas aux inégalités, mais pire que ça, il les renforce, il les creuse. Aujourd'hui, le gouvernement actuel, et je vais prendre un exemple qui a été annoncé dans le discours de politique générale de Monsieur Attal, c'est celui. Oui, mais je vais l'illustrer et l'expliciter très clairement. Ouais, vous prenez les annonces qu'il a faites sur le SRU, sur la remise en question de la loi sur le renouvellement et la solidarité urbaine. Et en réalité, c'est très révélateur parce que c'est-à-dire qu'il y a une politique de ghettoisation derrière tout cela. C'est-à-dire qu'on maintient des villes où il y a un fort taux de logement social et encore heureux parce que ça permet de loger les gens qui sont sans logis, et d'autres villes qui choisissent leur population et qui décident d'avoir des populations privilégiées et de ne pas accueillir dans leur ville des populations qui sont en difficulté, et donc en ce sens d'avoir une répartition territoriale qui permette d'éviter la ghettoisation sociale au profit de la mixité sociale. Et cette politique-là n'est pas faite aujourd'hui par le pouvoir, à contrario, il ghettoise, et ça c'est un vrai problème, c'est un vrai fléau. Et c'est la raison pour laquelle que quand on concentre la misère sociale, les travailleurs pauvres dans des quartiers, bah, évidemment que ça crée plus de problématiques,
enfin,
que la misère est plus grande,
et
que
du coup... De ce gouvernement,
non, mais la renforce, il ne s'y attaque pas. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne s'y attaque pas. Il n'y a pas de rupture politique aujourd'hui avec cette politique de ghettoisation, et en réalité elle devrait s'imposer. Et alors juste un autre truc, parce que moi je pense qu'il ne faut pas clôturer l'histoire de police quartier populaire, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on a oublié. Attal, il a dit dans son discours de politique générale que la réponse à apporter aux émeutes qu'a eu en juin-juillet dernier, c'était l'ordre et l'autorité. Mais quel mépris, quel foutage de gueule et quel mépris pour la vie humaine des gens des quartiers populaires. En réalité, s'il y a eu des émeutes, c'est parce que tous les ans il y a des dizaines de jeunes qui meurent dans les quartiers populaires parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, qui subissent des contrôles aux faciès. Ça, c'est une réalité.
Alors,
ça, c'est un vrai
général,
sujet.
Mon général, justement, après, je donnerai la parole à Youssef Brakni, parce que je vois
un discours. Ouais. Je vois un discours. On y va, bim bam boum. Non, attendez, je pense qu'il faut rester serein quand même.
Face à des gens qui sont assassinés,
il
n'y a pas quoi dire.
Il faut quand même rester serein quand même, pas attaquer, dire la police fait ceci, fait cela.
Mais monsieur, c'est un constat, c'est des chiffres et des données publiques.
Laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler. Moi, je pense que je répète, il n'y a pas de vision d'ensemble. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, qu'il faut s'attaquer. Si on s'attaque à ce problème, on s'attaque au problème global. C'est-à-dire qu'il faut véritablement faire un audit complet de ce qui a été fait et comment on va faire maintenant. Voilà. Tant qu'on n'a pas cet audit complet en balayant la poussière devant sa porte, un audit complet qui touchera à la fois les quartiers, le rôle de l'État, le rôle des associations, etc., et qu'on ne mettra pas à la tête de tout ça une structure qui soit un haut commissariat, comme je l'ai nommé, un haut commissariat à la ville, et qui ne soit pas un politique, mais une équipe de sachants qui fera et qui aura la vision. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à travailler, envisager les choses. Mais si vous voulez, on attaque toujours par le petit bout de la lorgnette. Donc on va dire, on fait de la violence, c'est la police qui va, donc qui frappe dans tel quartier. Là-bas, on va dire, on n'a pas de logement social. J'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Il faut véritablement avoir un audit.
Mais ça fait des décennies
qu'on n'a pas une vision d'ensemble, on ne saura pas faire.
Et ça, Brakni, par exemple, cette idée de haut commissariat à la ville, c'est pas mal ça. Et puis, réaction aussi à ce que...
En fait, le problème de la politique de la ville, il faut la reprendre à son origine. La politique de la ville est née suite aux révoltes dans la banlieue lyonnaise, au Minguet, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. D'accord. C'est né donc au début des années 80, les premières révoltes urbaines qui à l'époque avaient choqué la France. Il y a eu les prémices au début des années 80 et ensuite c'est vraiment au début des années 90 avec à Vaux-en-Velin notamment, il y a eu des énormes révoltes, les premières qui ont été vraiment médiatisées. C'est là qu'on a décidé de mettre en place véritablement la politique de la ville. La politique de la ville, c'est un état d'exception en fait. Ce n'est pas du droit commun. la politique de la ville, c'est pour pallier, comme ça a été dit, effectivement, des inégalités. Mais le problème, moi je pense que, moi en tout cas, je militerai plutôt pour qu'il y ait du droit commun, qu'il y ait les mêmes, les mêmes moyens. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ces populations-là, leur contribution, d'accord ? Donc on dit que c'est des quartiers pauvres et tout ça. En réalité, c'est des gens qui participent énormément à la richesse collective du pays. D'accord ? Ce qu'ils produisent comme richesse, ces populations-là, ce qu'elles produisent comme richesse, bah quand on regarde ce qu'elles reçoivent en retour, en comparaison à d'autres territoires, si on prend ne serait-ce que la Seine-Saint-Denis contribue beaucoup plus que ce qu'elle reçoit en comparaison du 92, de Paris, du 94, etc. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'en fait, on a ce mythe qu'on déverse des milliards. À cause de la politique de la ville, on croit qu'on déverse des milliards. Alors que ce n'est pas vrai. C'est juste des petits bouts de pansement, en fait. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, un élève en Seine-Saint-Denis coûte moins cher. C'est dramatique de le dire. C'est la République. Alors, normalement, la République, elle s'est fondée sur l'égalité, entre tous ses citoyens. Il n'y a aucune distinction qui doit être faite entre les citoyens. Or, pourtant, depuis qu'il y a des populations immigrées en France depuis la fin des décolonisations, eh ben en fait, on a c'est inscrit dans la loi, cet état d'exception où en fait, on met beaucoup moins de moyens pour ces populations-là. Et par rapport, encore une fois, retenez bien à ce qu'elles contribuent. Et ça c'est ignoble en fait. C'est injuste même. Et ça c'est la première chose. La deuxième chose sur le rapport entre la police jeune. Pour moi, il n'y a pas de rapport police jeune. Il y a un rapport jeune État. En fait, c'est les rapports des jeunes à l'État. Et la police, malheureusement, dans beaucoup de quartiers populaires, c'est le seul service public avec l'école qui est en face de ces jeunes. Or, ces policiers-là, en réalité, et on l'a vu quand il y a eu le lynchage du jeune Mehdi à Marseille, pendant les révoltes pour Naël à Marseille, vous savez, avec son crâne déformé, ça a beaucoup choqué, on a vu des policiers se mettre en grève pour ça. C'est-à-dire que les gens étaient choqués, ils disaient, mais pourquoi ils se mettent en grève alors qu'ils ont déformé le crâne? Mais en fait, moi, je pense qu'ils sont sincères, ces policiers-là, de la BAC. Dans le sens où, en fait, eux, ils ne font que ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire des policiers qui disent, on nous a dit, les ordres, c'était, nettoyez-moi tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire, nettoyez-moi ça, quand vous intervenez en plein centre-ville de Marseille? Évidemment. Donc, en fait, eux, en fait, ils appliquent ce qu'on leur demande. Quand on a des contrôles aux faciès, elle a été condamnée par la Cour de cassation. La France a été condamnée, il faut le savoir, le pays des droits de l'homme, pour contrôle aux faciès. C'est-à-dire que si tu es noir ou arabe, tu as 20 fois plus de chances d'être contrôlé. Eh bien, cette pratique-là, c'est ce qu'on leur demande de faire. On a des policiers qui disent, notamment il y a le commissariat du 12e où les policiers ont été condamnés parce qu'il y a eu des attouchements sur des mineurs, des insultes racistes, etc. Et on a des policiers qui sont venus à la barre qui ont dit j'ai assisté au procès. Bon, en fait, on nous demande de faire du chiffre. On nous demande de contrôler toujours plus. On demande de toujours avoir des résultats, etc. Et donc en fait, oui, on profile. On le sait dans la police. Dans la police,
vous faites référence, il y a des profilages. Et pourquoi vous dites qu'il faut voir sous un angle plutôt jeune et État ?
Parce que c'est l'État, parce que c'est quelles sont les directives qui sont données par la plus haute hiérarchie. C'est ça la question. C'est quel est le point de vue de l'État sur ces quartiers populaires-là ?
Jérôme Bonnet,
et moi, juste pour terminer, je vais vous le dire, le point de vue de l'État, quel que soit le gouvernement, c'est pour ça que c'est pas Attal le problème, quel que soit le gouvernement, le point de vue de l'État, c'est un regard paternaliste et surtout un regard de contrôle. De contrôle. C'est qu'en fait, on contrôle ces populations-là. Parce qu'on en a peur, parce qu'on considère que c'est des classes dangereuses, c'est l'ennemi intérieur comme ça a été dit, etc. Jérôme Bonnet. C'est pareil dans les Antilles, c'est pareil à La Réunion, c'est pareil à la Guadeloupe, etc.
Jérôme Bonnet, ensuite Jessica Langer, on va marquer une pause.
Oui, deux observations. La première, le général parlait de commissariat et disait que c'était important que la personne ne soit pas sous le joug des politiques. On l'a bien vu, puisqu'il y a eu une personnalité qui avait été nommée par Emmanuel Macron pour rendre un plan sur les banlieues. C'est Jean-Louis Borloo, qui est un monsieur qui a quand même pas mal d'expérience. Il a eu le malheur de faire un plan qui était très ambitieux et il a été sciemment enterré. La deuxième chose que je voulais dire, c'est effectivement par rapport à la vision qu'a ce gouvernement, ou du moins qu'il semble avoir, des quartiers. Pour moi, c'est une vision hémiplégique. C'est-à-dire, les révoltes, il les voit comme une maladie, alors qu'en fait, c'est le symptôme d'un mal bien plus profond qui ronge la France. Donc, la répression, il en faut comme vous avez besoin de prendre une aspirine quand vous avez une fièvre trop forte, sinon vous y passez. En revanche, une fois que vous avez pris une aspirine, vous n'avez toujours rien réglé. Donc, en fait, la répression traite les symptômes, mais n'attaque pas la maladie.
Le fond.
Voilà.
Absolument. On marque juste une courte pause et Jessica Langer, je vous donne la parole. Ça tombe toujours sur vous, hein, au moment de la pause. Je fais pas exprès. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Autour des thématiques qui nous concernent aujourd'hui, effectivement, autour de ce plateau, le général Emmanuel de Richouft avec Jérôme Bonnet, avec Jessica Langer et Chichi Bouille, enfin, Youssef Braknés. Jessica et Langer, je vous donne la parole, je vous ai pas oublié, pour parler évidemment de ce sujet avant de passer au troisième sujet, c'est celui de l'appauvrissement, les inégalités qui se creusent, croissantes, avec ces 1500 quartiers populaires dits prioritaires, qui regroupent ces populations de plus en plus pauvres. Jessica Longuer.
Bah, ces inégalités, de toute façon, elles sont mesurables et elles sont, voilà, même s'il y a toujours des failles dans ce qu'on mesure, puisque il y a toujours des éléments qui biaisent un peu le sujet, c'est-à-dire.
Je voudrais juste qu'on finisse, vous savez, sur cette question-là de jeune État, jeune police, comme le dit Monsieur Brackney, jeune État.
C'est intéressant ce qu'il a avancé sur la question de jeune État, puisque en effet, c'est le sujet. C'est la question de la perception de la jeunesse et où, du coup, on la voit pour les prochains avenirs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas des contrats de ville, politique de la ville qu'il faut. En effet, c'est un renforcement au niveau de l'éducation nationale, parce que aujourd'hui, seul l'État est capable de savoir quels sont les postes, entre guillemets, ouverts à pourvoir et insuffler et orienter les élèves dès le départ. L'armée recrute, la DGFIP recrute dans les finances, la RATP recrute, on a besoin de conducteurs. Et on nous dit à chaque fois qu'il y a un taux de chômage énorme. Mais comment il y a un taux de chômage énorme et on a autant de postes à pourvoir? Donc c'est qu'à un moment, il y a un problème d'orientation et de voilà. Et donc du coup, quand il parle de droit commun, mais c'est totalement le sujet. C'est qu'à un moment, si on n'a pas une politique claire sur où on veut voir nos enfants demain, parce qu'il y a des métiers qui sont présents, il y a des métiers qui vont être transformés aussi, il y a des métiers qui vont évoluer, on a l'intelligence artificielle qui va venir foutre un bordel sans nombre demain, qu'est-ce qu'on fait? Et donc oui, je suis totalement d'accord avec ça. La politique de la ville peut-être est à revoir, en tout cas sur la question des inégalités sociales. Je pense que c'est un travail de droit commun, comme il l'a dit, et qui commence par l'éducation nationale. Par contre, sur la question du développement des infrastructures et autres, eh bien non. Il y a des moyens qui ont été octroyés. Il y a eu des constructions. Elles ont été utilisées à bon ou à mauvais escient. On peut débattre, mais il y a des sujets qui peuvent être encore gardés.
Dernière thématique, je voudrais quand même qu'on l'aborde parce qu'elle est d'actualité, vous savez, en plus de 20 ans, entre 15 ans et 20 ans, eh bien, vous avez Paris qui s'enrichit de plus en plus, mais surtout les quartiers populaires qui s'appauvrissent. Alors ça, c'est terrible parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toutes les études qui le montrent sur la trajectoire justement des quartiers populaires avec cette question qui se pose aujourd'hui. Vraiment, et je vous la pose et on va faire un tour de table, y compris au général. Inégalité qui se creuse, l'appauvrissement des quartiers populaires, et puis les quartiers qui s'appauvrissent de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une société qui se scinde en deux, la société française et les quartiers populaires? Et puis où va-t-on dans les 5, 10, 15, 20 ans, mon général? Est-ce que ça risque pas de créer, justement, on parlait beaucoup de guerre civile.
Je dirais
c'est
simplement.
C'est vrai?
Vous avez raison que les quartiers s'appauvrissent, mais tout le monde s'appauvrit. La France s'appauvrit.
Non, mais les quartiers populaires, c'est pour moi.
Oui,
qui
d'accord, mais
il y a des classes sociales qui, au contraire, s'enrichissent. Ouais,
qui sombrent dans la misère.
Oui, mais on le sait, et les témoins le disent régulièrement. Et vous êtes, je pense, parfaitement au courant, puisque vous êtes sur la brèche en permanence et vous le voyez bien.
Là, vous parlez à Youssef Brackney, il vous répondra.
Oui, qu'est-ce que vous voulez.
Sauf que là, on parle d'exclusion.
Ouais, l'exclusion.
Mais en fait,
donc on revient toujours à la politique de la ville, qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose, il faut voilà, ce que je dis depuis le début, je le dis depuis des années, il faut vraiment travailler au fond.
Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, d'ailleurs vous avez écrit un livre là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la France se retrouve à une France à deux visages? C'est déjà le cas d'ailleurs, d'un côté vous avez la société française et de l'autre les quartiers populaires.
Bah, je ne sais pas si maintenant on doit le voir comme ça, j'ai l'impression que l'appauvrissement, il y a des classes sociales qui aujourd'hui sont pauvres, deviennent de plus en plus pauvres alors qu'elles n'étaient pas il y a encore 5 ans en arrière, vous voyez.
C'est vrai.
Alors vous allez me dire, oui, mais alors les quartiers populaires, donc avec nos citoyens qui sont français de fraîche date, ils sont plus pauvres que les autres, peut-être. Mais je veux dire que là, c'est quelque chose à travailler au fond. Et je reviens toujours, qu'a-t-on comme vision, que fait-on, voilà.
Jérôme,
je sais pas la réponse.
Vous disiez une nouvelle thématique, mais en fait pour moi, on est resté dans la même thématique. C'est exactement la même thématique. Tout à l'heure, je parlais de maladie et de symptômes. La maladie, c'est quoi? Ce sont les inégalités, justement. C'est sur ce terreau-là que se propage l'insatisfaction, la frustration qui débouche chez certains en rage destructrice. Le problème, il vient de là. Et encore une fois, autant on est obligé, évidemment, quand ça brûle, on est obligé de faire quelque chose et d'envoyer des gens pour que ça s'arrête. Mais on ne règle pas le problème. Donc on se condamne à revivre.
Depuis 40 ans, on ne règle pas le problème.
Non. On revit les mêmes situations.
Depuis 40 ans, on ne règle pas le problème.
Exactement. Pas vraiment. On a, par petites touches, on donne chaque année des petites
comme
touches.
Jessica Longuer, on colle des pansements. Quoi.
Mais c'est ça.
Jessica Longuer.
Alors moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je dirais que le problème, la maladie, ce n'est pas les inégalités. La maladie, c'est la pauvreté. À partir du moment où les gens ont le minimum, entre guillemets, ça veut dire se loger, ça veut dire manger, ça veut dire vivre correctement, avoir 3 repas par jour, les gens, je pense, peuvent se passer de certains excès. Voilà, tout le monde n'est pas pro à la consommation, à la surconsommation, si je pourrais dire. Et puis voilà, chose étant, moi aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aussi analyser de manière aussi micro. Parce que aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres devant moi. Mais on peut en effet parler des écarts qui se creusent dans les quartiers populaires. On peut aussi toutefois aussi parler... En effet, il y avait des classes qui deviennent de plus en plus pauvres, tout comme on a eu des classes qui ont une ascension sociale. Et cette ascension sociale, elle représente quoi ? Je n'ai pas les chiffres, très honnêtement. Combien de jeunes aussi ont eu à, par exemple, bouger à Dubaï ? Alors, c'est vrai que c'est un peu l'élément qu'on sort, qu'on parle des influenceurs et autres. Mais c'est une catégorie jeune qui existe. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à la quantifier ? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à quantifier quel revenu rapporte, entre guillemets, un dealer ?
Je suis pas
en train de dire que il y a les gentils et les méchants, mais est-ce qu'on arrive à quantifier? Parce que quand on a des chiffres, tout est biaisé. Bien évidemment, si on n'a pas tout. Moi, si je
pour aller à Dubaï, vous savez, il faut un minimum quand même.
Il faut un minimum. Mais qui sont ces personnes qui sont parties? Je suis désolé, c'est pas des personnes du 16e ni du 8e sans vouloir abaisser les personnes.
Il y a eu un beau dossier par le Courrier d'Atlas. Je vous invite évidemment, on peut le retrouver. Un beau dossier justement sur les réussites. Tous ceux qui se sont barrés. Que des cadres.
Plus de cadres que. D'accord.
C'est normal. Ceux qui bougent, c'est ceux qui ont les moyens de le faire. Bah oui, c'est ceux qui ont capital.
Ingénieurs.
C'est ceux qui ont capital culturel ou alors économique. Mais qui
peuvent venir des quartiers populaires.
Oui, bien sûr.
Ça n'enlève en rien la question de l'ascension sociale et donc du coup la possibilité de mobilité. Forcément, la mobilité, et elle va dans les deux sens. L'ascenseur descend et l'ascenseur monte.
Oui, en fait, ce qui se passe dans les quartiers populaires, en réalité, c'est qu'il y a une infime minorité qui arrive à s'en sortir. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est vraiment une infime petite minorité qui parvient grâce à une seule chose et unique chose, c'est le cadre familial, la famille, évidemment. Premièrement, on dit souvent l'école, etc. Mais c'est d'abord la famille, les parents surtout, et l'école dans un second temps. C'est-à-dire que pour moi, la chose la plus destructrice, la plus injuste, c'est les inégalités scolaires. Il n'y a pas pire, en fait. Parce que la seule façon de s'en sortir, c'est l'école. Quand on détruit l'école, comme c'est en train d'être fait là, il y a le recteur de Paris qui vient de démissionner pour protester contre la politique de la nouvelle ministre et du gouvernement général. Quand on instaure clairement une inégalité, bien sûr.
Très fort.
Pour moi, l'école, c'est fondamental.
Que le recteur de Paris démissionne, autant dire que ça tremble.
À peine nommé, trois affaires.
Ça tremble, ça tremble.
Pour savoir comment va un pays, il faut vraiment regarder son système éducatif. C'est le système éducatif qui est fondamental et qui fait tout. Et c'est ce qui crée, c'est ce qui permet en tout cas, on le sait en France pendant très longtemps, c'est que mon père était ouvrier, moi je ne le suis plus. C'est-à-dire que grâce à l'école, il y a l'ascenseur social. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout pour une bonne partie de la population et notamment des quartiers populaires.
Des jeunes tout à l'heure.
Le plus important dans les quartiers populaires, c'est les services publics. C'est ça qui compte, c'est les services publics. Les services publics. Si on ne veut plus de révolte, moi je le dis clairement, si on ne veut plus de révolte, si on ne veut plus de drogue, si on ne veut plus de violence, si on ne veut plus de cette exclusion, etc., il faut qu'il y ait un système de services publics égalitaire. Pouvoir aller chez le médecin, savoir nager avant l'âge de 10 ans. Vous le savez qu'en Seine-Saint-Denis, il y a, je crois, que c'est 60% des enfants qui savent pas nager à l'entrée en 6e. C'est gigantesque. C'est énorme. Vous savez qu'il y a le record entre les deux, c'est Marseille et la Seine-Saint-Denis. Est-ce que Macron, quand il est arrivé au pouvoir, rappelez-vous, en 2017, ce qu'il a dit, ce qu'il a proposé au quartier populaire, pourquoi il a enterré le rapport Borloo? Parce qu'il a un projet. Macron peut pas lui reprocher ça. Son projet, il a dit, c'est Uber. Il a dit, vous allez tous être votre propre patron. Donc en fait, dans les quartiers populaires, je caricature à peine, le choix c'est soit on est exploité par Google et on a l'illusion d'être son propre patron,
et pourquoi
soit on devient dealer. Et moi je vous le dis, parce que il n'y a plus de débouchés par l'école. Moi je me souviens que quand j'étais petit, on voyait les plus grands, entre guillemets, c'était beaucoup les anciennes générations, les grands du quartier comme on les appelait, on en voyait quand même qui arrivaient à s'en sortir et qui malheureusement quittaient le quartier. C'est ça aussi le problème. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les nouvelles élites, entre guillemets, qui émergent des quartiers, non seulement elles quittent le quartier, mais elles quittent la France. Vous le savez ça? Il y a un départ massif. Et là, il y a une enquête qui va sortir très prochainement, qui va faire grand bruit, je pense.
Une enquête quoi, journalistique?
C'est une enquête sociologique.
Sociologique.
Voilà. Et il y a le New York Times qui a déjà fait un papier qui a mis en rage à l'époque Valls. C'est qu'en fait, on a une élite des quartiers populaires qui quitte la France, donc des cerveaux qui vont en Angleterre, au Luxembourg, à Bruxelles, au Canada évidemment, à New York, etc.
Effectivement. Richie Thibault.
Oui, alors il y a plusieurs sujets. Déjà, moi je pense qu'il y a un sujet majeur, c'est les services publics avec leur effondrement et des services publics qui sont largement défaillants dans les quartiers populaires. Et prenez l'exemple de l'État. De l'état des infrastructures, des lycées, des collèges, notamment en Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est là l'exemple le plus éloquent. Les faux plafonds qui s'effondrent, tu vois, comme diraient mes potes les plus jeunes, c'est une vraie singerie. Et le pouvoir ne s'y attaque pas du tout. Deuxième sujet, en réalité, je pense que Youssef... Non mais Youssef, là, mais oui, on peut voir les commissariats, etc., les hôpitaux, etc., etc. Et ensuite, il y a un autre sujet majeur, Youssef en a parlé tout à l'heure, c'est que effectivement, dans les quartiers populaires, il y a une production de richesse qui est immense. C'est les travailleurs les plus essentiels, pour reprendre une formule qui est chère à Macron. C'est les chauffeurs de bus. Et voilà, les premières lignes, etc. Ceux sans qui la France ne tient pas debout. Et qu'est-ce qu'il y a pour ces gens-là? Ben, ils n'ont pas leur part du gâteau. Le gâteau, il n'est pas partagé de manière équitable. Et pour moi, il y a la question du partage des richesses, comme les habitants des zones rurales. Et ça, c'est un enjeu majeur. Parce que quand on paie dignement les gens de leur travail, qu'ils arrivent à vivre de leur travail, ça règle un problème. Et quand on ne tombe pas dans la misère, tu vois, et c'est les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, quand on ne tombe pas dans la misère, qu'on a un cadre de vie serein, comme le disait Jessica, on peut s'émanciper, accéder à une scolarité digne. Et ensuite, un troisième enjeu qui est révélateur du mépris de la vie, de la dignité humaine des gens qui habitent dans les quartiers populaires. C'est les Jeux Olympiques. Là, on arrive, on est à 6 mois des Jeux Olympiques et pour moi, ils illustrent toutes ces problématiques. Ouais, vous avez le village des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis qui aura des purificateurs d'air parce qu'on met en lumière le fait que l'air est malsain et qu'on peut crever, choper des maladies en respirant l'air de Seine-Saint-Denis à cause des plateformes d'échangeurs autoroutiers. Mais ça fait des années qu'il n'y a aucun dispositif pour les habitants. Mais quel mépris! Mais ça, c'est pour les classes populaires des quartiers populaires. Ça veut dire qu'en gros, la vie des journalistes et des sportistes, des sportifs qui viendront en Seine-Saint-Denis a plus de valeur que la vie des habitants des quartiers populaires. Mais c'est quoi ça? Ça
demande
dire
quand même aussi à des étudiants de libérer leur chambre étudiante pour les loger.
C'est du racisme environnemental.
Mais c'est totalement. Alors moi, je veux juste rebondir sur l'ubérisation parce que c'est totalement un fait. Soyez votre propre patron. Il y a de plus en plus de jeunes qui refusent de s'ancrer. Aujourd'hui, on ne veut pas rester, on ne veut pas perdre de temps, faire une longue carrière comme on fait nos parents, etc., dans le même métier, avec l'adoration du métier des pères, des prolétaires et fiers de l'être. Et ça, c'est important de le dire aujourd'hui. Il y a une dégradation de l'image du métier de base, alors que c'est l'essentiel. Et moi, aujourd'hui, alors, on a juste à regarder, j'ai été RH, on a juste à regarder aujourd'hui la grille salariale. Des fois, c'est plus intéressant d'être poissonnier que d'être assistant RH dans un bureau. Et je vous le dis. Donc il faut revenir. Moi, j'invite la jeunesse parce que plombier, je pense qu'elle nous plombier. Écoute ouais, aussi vrai. À revenir aux cordonniers.
Agir
avec la main parce que c'est vrai que avec l'IA tout est dématérialisé et puis on nous fait des choses qui sortent de Chine, de je ne sais où. On voit pas les choses. Eh ben il faut revenir aux bases essentielles parce que je pense que il nous le faut. Et si la jeunesse elle nous écoute, j'aimerais leur dire ne pas hésiter à revenir à l'essentiel, ne pas avoir peur de choisir un métier.
D'un mot. Mon général, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? On fait
J'ai proposé, mais je vais pas l'exprimer ici ce soir parce que je n'aurai pas le temps. Mais je dis, il faut qu'il y ait un audit complet de la politique de la ville, un haut commissariat chargé de cette politique qui gère sur le long terme, rattaché au Premier ministre, bien évidemment, puisqu'il y a quand même la politique. Et puis au plan local, un certain nombre d'actions à mener sur toute la France. Qui montre que l'État prend en main les choses, un petit peu ce que j'ai fait modestement sur un certain nombre de
genre l'antenne.
Un certain nombre de régions. Et puis surtout, c'est véritablement faire un audit dans les quartiers, dans un certain nombre de quartiers. On en prend 5 au démarrage et on fait un audit sécuritaire. Qui fait quoi? Un audit sécuritaire et non. Un audit social.
Depuis des décennies qu'on fait ça.
Non, et un audit social où on fait véritablement un contrat social, un nouveau contrat social à l'égard de la population.
Moi, je pense qu'il faut une phrase, investir massivement des milliards et des milliards que ça coûte le plus possible dans l'école publique.
Merci infiniment. C'était très bien, franchement. C'était un plaisir, évidemment, autour de ces thématiques. Merci à Jérôme.
Pas un débat de CNews.
Merci
beaucoup. Merci à tous les co-débatteurs qui ont été d'un très bon niveau, je trouve.
Ça, c'est pas du Bolloré.
Jessica Langer.
Merci.
Arrêtez. Laissez Bolloré là où il est, on n'est pas concerné par
non,
ça.
Non, on va aller le chercher.
Attends, pour le moment, t'es pas concerné. Attends.
Mais non.
Qui sait, il pourrait faire ma mise.
Laissez-le là où il est. Mais c'est pas le
sujet.
Ne mélangeons pas tout, c'est pas le sujet, franchement.
Ah, ben, moi, tout est lié, tu vois. Mais je pense qu'il faut prendre le problème à la racine.
Ah, non, mais non, mais.
La stigmatisation des quartiers populaires.
Peut-être que le groupe Bolloré peut organiser ce type d'événement. D'ailleurs, vous serez. D'ailleurs, tiens, Bruno Pomard, justement, détrompez-vous. Je pense que vous allez être agréablement surpris. Vous allez voir. Je vous le dis. Pas Bruno Pomar, oui, absolument. Ouais. Qui va incarner un truc autour des quartiers populaires.
Bruno Pomar.
Youssef Brekner, au plaisir.
Merci.
Un vrai plaisir, Adil.
Merci à Solal. Bilal Nedman tout de suite. Vanessa, juste après, 21h. Les programmes continuent sur BFM. À lundi, avec autant de plaisir. Mais surtout, ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.